au réseau Cogeco. Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
L'objectif ultime, c'est de tester plus pour être capable de dépister les cas d'infection à la COVID. Mais tester plus, ça veut dire plus de tests de laboratoire et d'études en laboratoire. Et là, présentement, il y a un drapeau rouge qui se lève à l'effet de dire, écoutez, nous sommes débordés dans les laboratoires. Le personnel technique qui fait ces examens-là est débordé et épuisé. Et s'il nous arrivait une deuxième vague, et qu'est-ce qu'on ferait? Comment passer à travers cela? Est-ce qu'il faut embaucher? Est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre nécessaire? Déjà, je pense qu'il y a des techniciens qui ne sont pas tout à fait à la fine pointe et qui sont là pour aider et supporter. Amir Kadir, vous le connaissez, le docteur Kadir, il est microbiologiste, infectiologue, mais travaille au quotidien avec ces gens-là. Bonjour, Amir Kadir.
Bonjour.
Alors, ce cri d'alarme, est-ce que c'est il faut s'en préoccuper?
Monsieur Mongrain, les technologies de la santé, ça veut dire qui? Ça veut dire tout le personnel qui, dans le labo, dans le laboratoire, par exemple, de microbiologie ou de virologie, font les tests au quotidien, les échantillons qu'on leur fournit de nos poumons, de l'urine de nos patients ou des différents spécimens pour s'assurer qu'il n'y a pas de microbes, qu'il n'y a pas de virus dans ces spécimens-là. Ou ils font les tests de sérologie ou les tests spécialisés comme le PCR qu'on fait pour le COVID, d'accord, le COVID-19. Mm-hmm. Or, on sait qu'il y a une course et on souhaite que cette course même aille plus loin à faire le plus possible de tests pour le COVID pour détecter rapidement les cas, le plus de cas possible, et les isoler au lieu de mettre en arrêt l'ensemble de la société. Si on réussissait vraiment à faire du bon travail, on n'aurait pas besoin de fermer la société, on identifierait les gens qui sont infectés, puis on les mettrait en quarantaine. Oui. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire énormément de notre main-d'œuvre disponible, des techniciens dans le laboratoire doivent consacrer une énorme quantité de leur travail, de nos énergies et même de notre espace, parce qu'il a fallu installer ces machines-là pour faire le travail. Or, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On veut en même temps retourner à un travail normal dans les hôpitaux, c'est-à-dire s'occuper des autres patients. Donc, peu à peu, toute la charge de travail habituelle doit reprendre sa place parce que c'est ce qu'on veut. On veut s'occuper des autres maladies aussi, bien mais sûr. On ne veut pas lâcher du lest du côté du COVID. Donc, ça veut dire qu'il y a deux exigences qui se rencontrent, qui s'ajoutent, ce qui fait que je ne comprends pas que le gouvernement réponde négativement à la demande des technologistes de consacrer plus de budget, d'abord pour reconnaître tout le dévouement, puis toutes les heures supplémentaires pour tout le travail que ces gens-là ont fait, les suppléments qu'on a donnés à tout le monde. Elles aussi, les technologistes, d'ailleurs, c'est un job principalement occupé par des femmes, et malheureusement, comme beaucoup de jobs principalement occupés par des femmes, souvent c'est sous-reconnu. On a vu à quel point les infirmières ont dû se battre, les préposés ont dû se battre pour faire reconnaître leur rôle. Donc, je pense que leur demande est légitime de dire au gouvernement il faut éviter de nous épuiser, il faut consacrer plus de ressources pour qu'on puisse en engager plus, pour qu'au lieu qu'il y en ait 4 sur le plancher, il puisse être 5 pour faire le travail, pour ne pas après coup ramasser des personnes en épuisement puis tomber dans un cercle vicieux.
Présentement, Dr Kadir, on est en train d'ouvrir... Non, je recommence. Les laboratoires étaient monopolisés par cette quête de dépistage de la COVID. Et là, parce que le système était un peu arrêté dans les hôpitaux généraux.
C'est-à-dire que naturellement, comme on a diminué le travail courant, les patients ambulatoires, on faisait plus uniquement que les urgences, ben ça a diminué la charge de travail, donc ça pouvait normalement être balancé. C'est-à-dire l'équilibre était assuré par cette évolution naturelle des choses, puis on pouvait s'occuper donc du testage, parce que c'est pas juste le test, là, il faut préparer les réactifs, il faut ensuite nettoyer les machines, il faut faire les rapports, il y a toute une mécanique alentour de ça qui est, pour que ça soit rapide et que ça soit efficace, bien, il a fallu mobiliser beaucoup d'énergie.
Cette pression-là, est-ce qu'on a un capital humain capable de venir aider ces équipes? On a vu dans les CHSLD du personnel qui est venu soutenir, prendre la place, compenser pour l'épuisement de certains et ou les maladies de d'autres. Est-ce qu'on a ce capital humain-là, ces ressources humaines-là, disponibles à quelque part, ou si on est vraiment dans les formations à la limite de ce qu'on peut avoir?
À l'échelle du Québec, j'en suis moins conscient. C'est-à-dire, mm-hmm. Je n'ai pas les chiffres. Mais dans notre centre hospitalier, par exemple, on a quand même du personnel, mais il faut avoir le budget pour les engager, pour ne pas faire en sorte que juste le nombre actuel du personnel s'épuise, s'éreinte au travail. Parce que c'est là qu'on va avoir un problème de main-d'œuvre. S'il y en a trop qui tombent, qui sont en épuisement, qui tombent en maladie à cause de trop de stress, trop de charges de travail, trop d'overtime, de surtemps, c'est là qu'on va avoir un problème parce qu'on ne pourra plus avoir le personnel en nombre suffisant sur les quarts horaires normal de travail. L'idée, c'est que pour ne pas se ramasser en épuisement, étant donné que la charge de travail a augmenté, on ne peut pas demander au même nombre de personnel de faire tout ça en même temps. Là. Donc, il faut être capable d'en mettre plus sur le quart de travail.
Mais ils existent, ces gens-là. Ils sont à quelque part.
Oui. Actuellement, oui. Oui, okay. On a du personnel okay. qui sont à temps plein, d'autres qui sont à temps partiel et okay. qui pourraient compenser et remplir des trous.
Parfait. Ben, je pense que c'est bon de lancer le signal. Dites-moi, à un autre domaine, à un autre niveau, j'ai entendu, puis on connaît les communications, vous en avez fait aussi pas mal. Moi, j'en ai fait pas mal aussi. J'ai remarqué que dans les méthodologies de communication des conférences de presse, de la santé publique et du ministère de la Santé, on commence quelques jours avant à nous dire « ben là, on n'est pas rendu là, mais ça s'en vient. On n'est pas rendu là, mais ça s'en vient. » Là, on est rendu dans le port obligatoire du masque, doublé d'un autre message que vous avez peut-être entendu lors de notre deuxième vague. C'est comme s'il y avait une préparation psychologique à dire « nous aurons une deuxième vague ». À vous, scientifiques, je vous pose la question. Aura-t-on une deuxième vague? Et quels sont les critères pour en arriver à évaluer qu'est-ce qu'une deuxième vague?
Monsieur Mongrain, vous savez que moi, je suis microbiologiste clinicien, donc je n'ai pas une expertise particulière dans les statistiques et l'épidémiologie, sauf que je suis à l'écoute et je suis, les publications, les dernières analyses faites par les experts.
J'en étais convaincu, c'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, j'en suis convaincu parce que je suis un peu les données. Et lorsqu'on écoute les meilleurs modélisateurs, ceux qui sont habitués à, disons, à voir les tendances épidémiques et à les analyser, et surtout les scientifiques asiatiques qui ont un peu plus d'expérience que nous, et je pense qu'on doit avoir l'humilité de reconnaître que dans les épidémies respiratoires, ils sont une coche au-dessus de nous, ils sont mieux préparés, ils ont l'expérience, ça fait 20 ans qu'ils luttent contre ça. Donc, eux autres nous disent que c'est une certitude qu'il y aura une deuxième vague. Maintenant, est-ce que la vague va être grosse, aussi catastrophique que ça a été, que la première vague a été, par exemple, en Italie? Est-ce que l'Italie va connaître la même chose? Sans doute pas. Ces experts disent également qu'il y a un rôle très important joué par les mesures mises en place. Le confinement, on a vu, et plusieurs mesures comme les masques, là où ça a été instauré, a permis de contrôler la première vague. Maintenant, c'est sûr que la deuxième vague, si on instaure une série de mesures dans lesquelles le masque semble prendre de plus en plus de place, on l'a vu en Arizona. L'Arizona, le Texas, la Floride sont partis en deuxième vague, si on peut dire, là, ou en vague majeure, ensemble à peu près. Mm-hmm. Mais l'Arizona en est sorti un peu plus rapidement, c'est-à-dire le contrôle épidémique semble maintenant clairement engagé en Arizona. Et la seule différence entre l'Arizona et les autres, c'est que l'Arizona a institué le port des masques obligatoires dans les endroits clos beaucoup plus rapidement que les autres. Donc, on sait qu'il y a une série de mesures qu'on connaît maintenant. Les gens sont plus informés, on a pris certaines habitudes. Donc, si on les maintient adéquatement, cette deuxième vague pourrait être juste un vaguelet qu'on pourra adéquatement contrôler, qui ne fera pas déborder, qu'on pourra traiter les gens adéquatement, qu'on ne sera pas devant des choix difficile. Donc, dans le fond, l'idée, c'est qu'on a besoin de tous collaborer pour que cette deuxième vague soit la plus plate possible, la plus maîtrisée possible.
Parce que la résistance de certains à l'endroit de ce port de masque-là sont des irréductibles, de sorte qu'ils deviennent même des périls.
Absolument. Puis, je comprends pas, parce que la plupart de ces gens-là chérissent l'idée de liberté. Mais je ne crois pas qu'on soit ben libre une fois qu'on est branché un respirateur dans les soins intensifs, n'est-ce pas? Tout le monde en convient. Et là, on voudrait nous dire que parce que moi, je voudrais pas porter de masque pendant mes vacances ou mes activités, ben, je voudrais condamner des gens à être branché à un respirateur. Ben, je pense que y réfléchir et poser la question, c'est y répondre. Et je crois que pour nos propres libertés, pour les mêmes raisons que ces gens-là brandissent des pancartes, dans le fond, si j'ai un conseil à donner, mettons toutes les chances de notre côté, même si vous n'êtes pas absolument convaincu que c'est nécessaire, puisque partout où ça a été essayé, ça donne de bons résultats, on devrait, par prudence, le faire, parce que le coût de retomber dans un arrêt complet de notre économie, dans des confinements totaux, comme à Melbourne, dans des couvre-feux de 8 heures le soir à
5 heures. Ça enfreint les libertés pas mal, un
ben
couvre-feu.
Oui. T'sais, si on veut éviter ça, on est mieux de tout le monde, de se donner la main. Et on est obligé un peu de faire ça parce que c'est une pandémie. Mm-hmm. Pour que la pandémie soit contrôlée, on a besoin de la collaboration de tout le monde, surtout qu'il y a notre voisin américain, malheureusement, où les dirigeants se sont comportés de manière un peu irresponsable, fait que on n'a pas la collaboration internationale souhaitée. On voit pas la Chine et les États-Unis assis à la même table que les Européens et les Russes, les meilleures compétences du monde,
à trouver
des moyens d'arrêter ça.
Amir Kadir, microbiologiste, infectiologue, docteur Kadir, merci beaucoup de votre présence.
Merci,
encore une fois.
Bien.
Merci
de
la discussion, c'est intéressant. À force d'en parler, tu sais, peut-être. Hein? On s'arrête pour une pause.